Première fois que tu prêches depuis ici ?
C'est ça, dans la vie aussi, donc c'est un bon défi.
Mais depuis ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas prêché, parce que depuis la nouvelle chaire. Voilà, on va prier pour ce temps. Bien notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour Rachel. Nous te remercions aussi pour le temps qu'elle a consacré devant toi à rechercher ta pensée, à rechercher ce qu'elle avait à communiquer, ce que toi tu avais à communiquer à la communauté. Et Seigneur, on te remercie pour cela et on te demande de la bénir. Je te prie aussi de garder sa famille, de protéger son mari et ses enfants. Et merci d'ouvrir notre cœur à ta parole. Que cette parole maintenant, Seigneur, puisse germer, puisse être semée en nous et germer, porter du fruit. Amen.
Tenter de m'habituer à la technologie. Ok. Alors, bonjour. J'aimerais déjà remercier Claude Bachère qui m'a lancé ce défi il y a quelques mois et puis qui m'a lancé dans cette aventure. Donc, c'était un bon moyen de creuser la parole de Dieu aussi grâce à Jean, que j'aimerais aussi remercier pour son temps. J'ai choisi pour ce matin le psaume 16 qui est... un psaume qui pour moi est une déclaration de joie à Dieu, donc on peut l'afficher. Et puis je vais simplement commencer par le lire dans la version du Summer que j'aime tout particulièrement. Un cantique de David. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Juste attendre qu'on l'affiche, ce sera plus simple pour vous pour suivre. Merci. Cantique de David. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis ta part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, même mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Alors les commentateurs bibliques questionnent l'auteur de ce psaume, est-ce bien de David ? Sans entrer dans un débat théologique, je n'oserais pas. On peut toutefois noter un point qui me semble extrêmement intéressant. Si on revient au temps où David a vécu, la terre était partagée entre les 11 différentes tribus d'Israël, la 12e étant les descendants de Lévi. Ceux-ci étaient au service de Dieu, dans le temple ou étaient oints comme prêtres. Et on considérait que c'était leur héritage que de servir Dieu, que c'était leur bien le plus précieux. Alors David, lui, il était descendant de Benjamin, sa famille avait donc reçu des terrains et ça avait beaucoup d'importance pour les Israélites à l'époque. Mais une fois qu'on a placé ce contexte, de voir que David proclame au milieu d'une période de tourment que l'Éternel est sa part, son héritage ou son partage, me semble complètement révolutionnaire. Parce que c'était probablement une période où il sentait la menace de son, peut-être Saül, ou de ses ennemis. et il arrive tout de même à proclamer cela, qu'il soit sur ses terres ou en exil. Et il arrive à placer Dieu en premier dans sa vie, le considérant comme son bien le plus précieux. Et aujourd'hui, ça nous semble évident, ça nous semble acquis, parce qu'on a Jésus qui est passé entre deux, parce qu'on a toute une connaissance aussi par la Bible, en tout cas théoriquement, mais ce n'était pas du tout coutumier à son époque pour un Israélite qui était d'une autre tribu que celle des Lévites. Alors on peut passer le... C'est déjà plus loin, ok. Donc voilà, c'est versets 5 et 6 qui disent « L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part ou l'héritage, c'est pareil, que j'ai reçu. » Et je trouve ça particulièrement beau. Mais de quelle nature est la joie de David pour pouvoir louer Dieu en de pareilles circonstances? Alors je me suis posé la question suivante. Est-ce que la joie peut se trouver à plusieurs niveaux? Et pour illustrer un petit peu ça, c'est pas tout à fait la saison, hein, vous m'excuserez, mais on a d'autres fruits d'été. Je voulais dire que j'ai la conviction que oui, pour moi la joie, elle peut être extérieure, elle peut être plus profonde ou elle peut être très intime. Et puis c'est un petit peu le symbole de ce fruit. La pelure, la pulpe et le trognon. Alors, même si ce fruit est souvent chargé d'une connotation un petit peu négative, vu que Ève aurait fait manger à Adam le fruit qu'on pense être une pomme, signe du fruit défendu, enfin, on va passer les détails, ça me semble quand même parfaitement illustrer le thème de ce matin, peut-être justement à cause de cette ambiguïté. La pomme sera à la fois image des différents niveaux de la joie et aussi symbole de cette joie perdue causée par la chute de nos premiers parents. On va éviter de parler du ver qui entre dans la pomme et qui l'empêche d'être succulent. Alors tout d'abord la pelure. Elle entoure le fruit, elle le protège, elle est bien visible, mais qu'est-ce qu'elle est mince. C'est aussi l'image de la joie extérieure qui est à fleur de peau, souvent éclatante, mais revers de la médaille aussi, c'est fréquemment une joie de façade. Elle peut être ressentie quand un événement heureux nous arrive. Et puis, c'est aussi la pelure avec tout ce qu'elle a d'éclatant qui nous fera choisir tel rouge plutôt que tel jaune ou verte. Mais même si c'est une émotion légitime et bienfaisante, autant chez le chrétien que chez le non-chrétien, parce qu'il serait triste de considérer qu'en tant que chrétien, on ne peut pas profiter des joies légitimes de la vie sur terre, c'est quand même une joie très fine. On verra la suite après. Alors ne négligeons pas les petites joies du quotidien qui mettent aussi l'eau à la bouche. Et puis, on a maintenant la pulpe qui constitue quand même l'élément essentiel du fruit. C'est une joie plus profonde, plus épaisse que la pelure. Et c'est celle que Paul appelle dans Philippiens 4:4 la joie dans le Seigneur. C'est la joie complète qui est promise par Jésus à ceux qui demeurent dans son amour et qui gardent ses commandements. Et ça, on le retrouve dans Jean 15, 9 à 11. Cette épaisseur de la joie, elle provient de la prise de conscience que rien n'échappe à la providence et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la joie de savoir d'où l'on vient, où l'on va, et qu'on est créé par Dieu, qu'on est sauvé par Christ et qu'on est destiné à la vie éternelle. Nous savons aussi que Dieu aura le dernier mot sur les différentes puissances de la mort et aussi sur la mort elle-même. Cette joie, elle est permise par la sécurité de savoir quelle est notre identité en Christ. Il est mort et il est ressuscité pour nous. parce qu'il nous aime tellement profondément. Il est notre roc, il nous donne l'assurance d'être aimé inconditionnellement. Et dès lors, on n'a plus besoin de paraître, on n'a plus besoin de chercher désespérément l'amour ou la reconnaissance humaine. Est-ce que ça ne vous en rend pas léger et heureux? Et puis, quand on parle de cette pulpe, on mesure bien qu'on n'est plus là en présence d'émotions superficielles, mais bien plus profondes et bien plus précieuses. C'est le plaisir qui se rapporte plus à l'esprit humain, qui tient du caractère de Jésus et qui va influencer le nôtre. Puissions-nous nous imprégner de cette joie qui est tellement fréquemment chantée par les psalmistes, entre autres dans le psaume 11, qu'on peut relire ensemble. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Il nous reste le trognon. Et c'est ce qui reste quand on a mangé la pomme. Mais bon, il semblerait qu'en botanique, la pomme est le faux fruit et le trognon, c'est le vrai. Donc, c'est intéressant parce que c'est la joie qui demeure quand il n'y a plus aucune raison apparente de se réjouir. Et Paul a réussi à atteindre cette joie. Il arrive à se réjouir en prison et entrevoit même d'y mourir. Et dans le trognon, il y a aussi, on ne les voit pas bien, mais il y a aussi des pépins, qui sont les germes en puissance de la vie éternelle. Je me perds un peu, pardon. Donc ce fruit de l'esprit qui va féconder notre esprit humain peut générer aussi une vie chrétienne par son rayonnement qui est doux et profond. Elle transforme ainsi notre identité humaine et nous amène à ressembler de plus en plus à Christ. La joie pelure est limitée dans le temps, mais celle qui est dans le trognon est éternelle. Et en bonus, qu'est-ce qui reste dans la pomme? Qu'y a-t-il dans une pomme? Le jus, on pourrait en parler, c'est vrai. Je pense à ce qui est nutritif. Le sucre et puis les vitamines. Alors moi, je crois fermement que l'Esprit Saint que Dieu nous propose de placer dans nos vies, c'est comme une bombe de vitamines. Ça apporte l'énergie pour vivre, pour agir, et puis ensuite pour se tourner vers notre prochain et le bénir par une joie qui est contagieuse. Alors voilà, pour essayer de s'imprégner un petit peu de ce symbole, je voulais vous laisser un résumé sur le slide qui nous rappelle quelles sont les couches et puis le lien spirituel qu'on peut en tirer. La joie très profonde qui est le pur produit de l'Esprit Saint ne va pas nous conduire à la recherche de la souffrance, mais c'est faire vivre le bonheur éternel de l'au-delà dans la vie pas toujours très réjouissante d'ici-bas. Et certains parmi nous vivent des épreuves extrêmement difficiles et la joie extérieure n'est pas toujours au rendez-vous. C'est alors que la joie intime que l'Esprit peut produire en nous est tellement vivifiante et douce. Et pour être un peu plus personnelle, j'avais envie de vous partager une expérience qu'on a récemment vécue en famille, en couple surtout, dont la recherche d'une jeune fille au pair qui a commencé il y a quelques mois pour l'année scolaire à venir. De mon côté, travaillant dans les ressources humaines, je pensais que ça allait être un processus de recrutement assez facile pour un emploi qui me semblait relativement simple à repourvoir. Et puis, le marché étant très largement en faveur des quelques jeunes filles suisses-allemandes qui voudraient bien venir ici en Romandie, contre les nombreuses familles qui ne trouvent pas de place en crèche, c'est le marché actuel, on s'est donc embarqué pour cette aventure en février. Et on ne savait pas à quel point ça allait être difficile et une telle charge de travail. Donc on a beaucoup prié pour ça, on a surtout beaucoup travaillé pour ça. Et puis, on a dit à Dieu un peu quels étaient nos critères, quel était notre rêve en fait. De trouver quelqu'un qui pourrait rentrer le week-end, qui pourrait être suffisamment mature pour garder de tout jeunes enfants comme les nôtres, et puis aussi qui viendrait plutôt de Suisse pour éviter les nombreux tracas administratifs, je vous passe tous les détails. Et puis qui parle un peu de le français déjà pour que la transition soit plus simple pour nos enfants. Enfin bref, voilà, on a réussi à décrocher 6 entretiens qui se sont tous soldés par des échecs au final. Donc voilà, en parallèle, toutes les recherches de garderie, visites, inscriptions, listes d'attente interminables, etc. Ça, c'était vraiment long. Et puis, ce qu'on a relevé à la fin de vraiment intéressant, c'est que tout au long de ce processus, Dieu était à nos côtés. Et puis, ce n'était pas uniquement théorique, c'était une paix qu'il a placée dans le cœur de Xavier comme du mien, qu'il avait toute chose en main et que, voilà, on devait travailler pour y arriver, mais qu'il savait déjà quelle était la bonne personne pour nous. Et qu'il avait aussi la solution optimale et pas la solution par défaut. Et on était paisible, on était presque dans la joie malgré le stress qui augmentait en voyant les mois passer. Et puis c'est à ce moment-là que le verset 8 de ce psaume me parlait. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Alors on a continué à proclamer que Dieu avait la solution, parce qu'évidemment le découragement arrive, revient, le pessimisme aussi. Et puis, à ce moment-là, ce verset 2 qui dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi » se révélait assez vrai pour nous. Et puis début juillet, un dénouement en une semaine nous a tellement remplis de joie. Donc, pour faire court, une jeune fille est venue se présenter, on lui a directement demandé de venir en stage 2 jours, on lui a offert un contrat immédiatement tellement qu'elle nous a enthousiasmés. Et puis 3 jours après, sa réponse positive arrivait alors qu'entre-temps, elle avait visité 2 ou 3 autres familles. Alors la perle qui répondait à tous nos critères est bien au-delà, nous a choisis. Et ça nous a tellement touchés parce qu'on savait que sans l'aide du Très-Haut, ça n'aurait pas été possible. Ça nous a, d'un autre côté, pas tellement surpris parce qu'on savait que Dieu avait la solution divine et qu'il avait la puissance pour nous accorder cette faveur. Puis alors j'ai envie de faire un lien avec le psaume 9 qui dit « Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, même mon corps repose dans la paix. » Et là c'était soulagement, une grande reconnaissance et puis aussi le repos, petit clin d'œil parce que c'est arrivé le premier jour de nos vacances à Stockholm. Donc voilà, Dieu est bon. Enfin, c'était juste pour dire que des fois ça prend beaucoup de temps et puis que Dieu est prêt à nous accorder sa joie et sa paix même avant que ce qu'on lui demande n'arrive. Alors voilà, si on revient maintenant à David qui était sans aucun doute prophète, qui savait vivre par l'Esprit Saint, eh bien, convaincu de l'espérance que Dieu le protégera, qu'il peut être dans l'allégresse. Et là, on peut relire encore ces deux versets. Pour moi, c'est vraiment impressionnant de voir David qui dit ça alors qu'il est dans une période de tourment. Pour lui, ça n'avait rien à voir avec la joie qui est due aux circonstances heureuses de nos vies. Ce serait la pelure de notre pomme. Parce qu'il était dans une période de vie qui était difficile. Et puis à d'autres périodes de sa vie, par contre, il arrive à se montrer complètement exubérant, sans aucune considération envers le qu'en dira-t-on, bien vaudois également. Et puis on peut notamment penser à l'histoire où il va danser comme un fou pour Dieu au milieu du peuple d'Israël, à moitié nu. Sa femme Michal qui le regardait par la fenêtre et qui le méprisait en elle-même. Ça, on peut trouver dans 2 Samuel 6, versets 14 à 16. Mais même les critiques d'une des personnes qui était proche de lui n'ébranlent pas David, qui prend encore plus fermement position pour Dieu. Et pour lui, on sent à ce moment-là que c'est la première personne dans sa vie, qu'aucune personne sur terre n'arrive à la cheville de l'Éternel dans son cœur. Et ça me pose la question suivante. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous aussi libres que David pour pouvoir exprimer à Dieu notre joie face au regard de l'autre? Et puis pour conclure, j'avais envie de dire que de nombreuses joies de la vie sont bonnes et profitons-en intensément. Cependant, ne laissons pas les joies éphémères ou le découragement ou le pessimisme nous voler la joie profonde que Dieu veut nous offrir. Et il nous propose de vivre une joie qui résiste à toutes les intempéries de la vie. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes nous pourrir la vie ou la pomme de la joie. Ça nous restera en tête. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. J'avais envie de nous laisser un petit temps où on pourra méditer trois questions que je vais lire maintenant et puis après on pourra prendre un temps de juste une minute pour réfléchir à ça. Ça pourrait peut-être être poursuivi dans certaines cellules et puis on terminera par la prière. Dans cette saison de ma vie, quel type de joie est-ce que je vis au quotidien? Des difficultés m'empêchent-elles de vivre dans la joie et de louer Dieu? Et face au regard de l'autre, sommes-nous aussi libres que David pour exprimer notre joie? Père, toi qui es notre protecteur et notre bien le plus précieux, merci pour qui tu es. Tu nous rejoins là où nous en sommes et tu nous tends la main. La joie que tu proposes de placer dans nos vies est profonde, vivifiante et éclatante comme le soleil d'été en plein midi. Je choisis d'accepter cette source débordante et rafraîchissante dans ma vie. Que ton Esprit Saint vienne nous unir maintenant et nous offrir cette joie pour la vivre dans et avec la grande famille de Villars. Amen.
Merci à Rachel pour ce message sur la joie. Je crois que nous avons tous reçu quelque chose. Et nous allons passer en temps de louange maintenant, dans la joie. Il y a trois chrétiens qui étaient en discussion. Puis il y en a un qui dit, « Ah, les gens du monde, ils ont vraiment une joie extérieure. On la voit, c'est exubérant, mais c'est rudement limité dans le temps. Et puis quand ils rentrent chez eux, ils sont tout tristes. » Puis l'autre qui dit, « Oui, c'est vrai, nous on a une joie profonde, mais vraiment profonde, c'est extraordinaire, qui dure tout le temps. » Puis le troisième leur dit, « Oui, comment se fait-il que cette joie si extraordinaire et si profonde ne s'extériorise pas ?» Alors c'est le temps de l'extérioriser maintenant, le temps de la louange. Et parfois pour l'extérioriser, il faut bouger. Il faut être en superficie parfois pour pouvoir avoir le cœur, avoir les émotions intérieures qui puissent sortir. Alors rentrons dans une joie même extérieure pour louer le Seigneur et vous verrez ce qui se passe. Alors merci au groupe de louange maintenant et que nous puissions vraiment louer le Seigneur dans la joie.